Alors bonjour à chacun, chacune, et bonjour à ceux et celles que je n'ai pas salués. Je suis vraiment encore contente d'être parmi vous ce matin pour partager la parole de Dieu ensemble. Alors je vous invite à prier pour remettre ce moment entre ses mains. Oui Seigneur, merci pour ce moment, ce beau culte que nous passons ensemble. Et maintenant que nous voulons aussi ouvrir ta parole, enfin continuer de l'ouvrir, qu'elle vienne encore nous éclairer. Enseigne-nous toi-même, viens parler à nos cœurs, à nos âmes, afin qu'en effet nous te connaissions et nous connaissions la profondeur de ton amour, la profondeur de ton plan pour nous, et tout cela toujours davantage. Oui Seigneur, tu nous assures que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait effet, et nous le croyons, t'en remercions. Au nom de Jésus, amen. Alors, je vous propose de partager ce matin, de méditer un passage sur la personne de Jésus, sur son enseignement et sur son exemple. Parce que la vision que nous avons de Jésus, eh bien, va orienter notre quotidien. La façon dont nous allons le voir, dont nous voyons Jésus, eh bien, ça va modifier notre système de croyance, ce que l'on croit de lui, ce que l'on croit de nous, ce que l'on croit de ce monde. Et ça va transformer, eh bien, influencer notre quotidien, nos actions. Alors, une première question, comment voyons-nous Jésus? Comment voyez-vous Jésus? Quand on prononce ce nom, qu'est-ce qui ressort en premier? Plusieurs choses, j'imagine. Alors pour certains, ils voient Jésus, c'est le petit bébé dans la crèche, enfin dans une mangeoire, et puis qui va descendre du toit de la cabane le 25 au matin, qui va aller dans la cabane, et puis le 26, 27, tout va être remballé et va repartir dans un carton. C'est une vision de Jésus, de nos contemporains, beaucoup, je pense. Après, comment peut-on voir Jésus? Eh ben, c'est vrai qu'on a vu des films aussi, donc on se dit, on a vu Jésus, le bel acteur américain, les cheveux longs, les yeux bleus. Hein. Donc, on peut aussi l'imaginer comme ça. Et j'ai un copain de ma fille, il avait sur son téléphone une photo de Jésus comme ça. Je disais, c'est pas trop ce que je pense pas que ce soit ça, mais. Et puis aujourd'hui, il y a une série, je ne sais pas si vous connaissez, le The Chosen. Et là, c'est vrai que, alors du coup, ça ressemble beaucoup plus, je pense, à ce qu'est Jésus en réalité. Et c'est aussi une photo que j'ai projetée là, cet acteur qui est très touché de jouer ce rôle de Jésus. Il y avait une photographe à Angoulême quand j'habitais là-bas, qui avait fait un vernissage où elle avait exposé ses photos et elle avait photographié en fait des crucifix dans les cimetières. Et donc il y avait Jésus sur la croix et donc en pierre, en bronze, en bois, et c'était pas forcément très joli parce que avec le temps tout ça avait été un petit peu abîmé. Mais aussi c'est une représentation de Jésus en croix. Et c'est vrai que dans nos milieux protestants, je pense que vous le savez, on représente justement pas Jésus en croix, mais plutôt la croix vide, en donnant l'accent sur la résurrection. Et puis, on peut aussi imaginer, quand on pense à Jésus, ce Jésus en gloire. On le voit uniquement, assis sur son trône, à côté du Père. Voilà. Donc, on peut voir Jésus de différentes façons. Et il n'y a pas, en fait, dans la Bible, beaucoup de descriptions de Jésus, sinon qu'il est vraiment présenté comme un homme commun. Par exemple, dans Ésaïe, il n'avait ni ressemblance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui peut nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Donc Jésus était vraiment un homme passe-partout, voilà, issu de parents israélites, avec des caractéristiques physiques israélites, Mais ce que je pense, c'est que très probablement, dans ses traits reflétaient toute sa générosité, tout son amour, sa prévenance, sa douceur, voilà, qui devait se manifester dans ses traits. Et puis, c'était aussi quelqu'un de très gestuel, de très kinesthésique. Il allait vers les gens, il touchait les personnes qu'il allait guérir. Il mettait de la boue dans les yeux, par exemple, ou il touchait les lépreux. Et puis, on a cette belle image dans les évangiles que vraiment, il attrape les enfants dans ses bras pour les bénir. Voilà. Un Jésus, donc, tout à fait humain, un homme. Et autour de lui, voilà, c'est ce qu'il était et ce qu'il représentait, puisque même dans sa famille, dans son village, on disait, mais n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Simon, de Jude? Ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous? Voilà, vraiment un humain. Il mange, il boit, il fait la fête. Il participe à la vie de sa famille. Par exemple, il va à un mariage à Cana. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui marche. C'est quelqu'un, qui visite ses amis, qui a des amis proches, peut-être plus proches. On pense à Marthe, Marie, Lazare. Voilà. Pleinement intégré dans sa société, si l'on peut dire, en tant qu'humain en tout cas. Et il est aussi fatigué. Il est aussi en colère, il ressent aussi de l'insécurité, il ressent du trouble intérieur, il ressent de l'angoisse devant la mort. Il voit le péché de sa société, de la société où il vit, il voit les personnes qui décèdent, il voit des malades, il voit des méchants, il voit des orgueilleux, et on sait qu'il pleure aussi. Voilà, donc tout ça pour dire voilà, qu'il était vraiment un humain comme vous et moi, et qui vivait, comme nous, dans un contexte de guerre, puisqu'il vivait en Israël et il y avait l'invasion des Romains qui étaient là, qui a suivi l'invasion des Grecs. Et Jésus aussi payait ses impôts, comme nous bientôt. Donc, vraiment un homme, et Philippiens dit aussi ceci, « Il a pris la condition de serviteur, il se rendit semblable aux hommes en tout point. » Et tout en lui montrait bien qu'il était bien un homme. Et Jean dit ceci, la parole est devenue un homme, la parole est devenue chair, hein, il a pris chair, dans les deux sens du terme. Donc Jésus à l'époque, c'était vraiment un humain, et c'est ensuite petit à petit que par ses actions, eh bien il a révélé sa nature divine. Et il me semble que nous, aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. On voit d'abord en lui sa nature divine, hein, par son action sur la croix, tout ce qu'il a fait pour nous. Et puis, on oublie qu'il est aussi pleinement humain. Et ce côté pleinement humain, voilà, il est très important, puisque par cela, il connaît notre condition humaine. Il nous comprend parfaitement. Il a vécu tellement de situations lui-même qu'il comprend les situations dans lesquelles nous sommes. Il est dit ceci, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui soit incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout, comme nous le sommes, sans commettre de péché. » Voilà. Il n'est pas incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et puis, c'est aussi un homme hors du commun, comme je l'ai dit, hein. Au fur et à mesure, par son enseignement, eh bien, les disciples ont compris qu'il y avait beaucoup plus en lui et que, voilà, il était Dieu sur terre, Dieu fait homme. Et bon, on le voit arrêter la tempête en une seule parole, par une parole. Il calme la tempête, par une parole, il libère aussi des possédés, par exemple, ou par un simple toucher, il guérit la belle-mère de Pierre. Quand il est arrêté et que les disciples veulent le protéger, il dit « Tu crois que je ne pourrais pas appeler mon père ? Il enverrait tout de suite des dizaines de milliers d'anges à mon secours. » Qui est cet homme ? Quel pouvoir a-t-il ? Il dit : j'ai reçu tout pouvoir du ciel et sur la terre. Et encore : je suis le vivant, j'étais mort et maintenant je suis vivant pour toujours. J'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Qui est donc ce Jésus ? Alors, je ne sais pas si dans votre vie ça vous est arrivé de se dire, mais alors vraiment, qui est Jésus, hein ? Et on a l'apôtre Philippe, qui vivait avec lui, et qui se pose la question, mais nous, on a déjà Dieu le Père, hein ? On connaît toute l'histoire de l'Ancien Testament, le Père qui a accompagné, et maintenant arrive donc cet homme qui aussi a tant de pouvoir et se dit Dieu et en lien avec Dieu, mais voilà, est-ce que en fait Dieu le Père ne peut pas suffire? Et c'est ce qu'il dit, ce que Philippe dit à Jésus, mais montre-nous le Père, nous ça va nous suffire, hein. Toi, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire avec toi. Et Jésus lui répond, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et dans ce beau passage aussi, il dit « Qui m'a vu a vu le Père ?» Et du coup, Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme, hein, révèle le caractère du Père. C'est fait Dieu sur terre pour venir nous parler, pour venir nous comprendre, pour nous visiter et pour nous sauver, nous offrir la vie éternelle. Quand j'étais enfant, je me suis posé aussi cette question, mais... À quoi sert Jésus en fait ? Parce que en fait, j'avais accepté Dieu comme mon père, hein, parce que aussi mes parents avaient divorcé, et du coup, je me suis dit, eh ben voilà, maintenant j'ai Dieu comme père. Mais j'avais une relation du coup assez lointaine avec ce Dieu créateur qui m'écoutait, mais qui répondait pas. J'avais pas de réelle proximité. Et puis un jour, voilà, j'ai compris que Jésus était vraiment Dieu sur terre, et que du coup, ça m'a interpellée en me disant, mais alors, si Dieu est sur terre, qu'est-ce qu'il peut faire sur terre ? Qu'est-ce qu'il a fait sur terre ? Et qu'est-ce que je peux faire sur terre ? Voilà. Et du coup, j'ai appris du coup à aimer beaucoup les évangiles pour comprendre comment il s'y est pris, en tant qu'humain et en tant que Dieu, comment il a fait et qu'est-ce que je peux faire à sa suite. C'est un sujet très important, voilà, de savoir qui est Jésus, comment se représente Jésus dans sa vie, je pense. Et si c'est un questionnement pour vous, ben, je vous invite vraiment à fouiller, à creuser, à piocher. Qui est Jésus et de comprendre voilà combien il est Dieu sur terre pour nous aimer dans notre quotidien. Et vous pouvez aller voir votre pasteur. Je sais que vous faites aussi les parcours Alpha et c'est magnifique d'avoir Jésus comme ça dans sa vie. Alors je propose un texte où on voit justement Jésus dans ses deux natures. J'aimerais donc lire ce passage avec vous dans Jean 13, 1 à 17. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette. De là, il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds des disciples, puis à les essuyer avec une serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit. « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, 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 tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas !» Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur, et il lui suffit de se laver les pieds. Or vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus connaissait celui qui allait le trahir, c'est pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds, les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple, pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. » Alors à première lecture, c'est un texte qu'on n'aime pas trop parce qu'on se dit « Ouh là là, là là, il va falloir qu'on se lave les pieds. Est-ce que j'ai envie de montrer mes pieds ? Est-ce que voilà, c'est très hygiénique cette histoire ?» Voilà, alors rassurez-vous, on ne va pas faire ça ce matin. Mais c'est vrai que la question s'est posée dans l'histoire de l'Église. Est-ce qu'il ne fallait pas rajouter ce sacrement, en fait, comme la scène et le baptême ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi rajouter ce lavement des pieds entre nous ? Et puis, bon, Calvin n'a pas gardé ce passage en sacrement. Enfin, c'est une longue histoire, et je vais pas développer ça maintenant. Donc, revenons un petit peu sur ce passage. C'est donc un texte qui se situe avant la fête de la Pâque, et on considère que ces chapitres 13 à 17, c'est vraiment le testament de Jésus avant sa mort. Voilà. Donc, il dit des choses très importantes et pourrait relire dans ses chapitres 13 à 17. Alors, la première chose qu'il va enseigner et faire, hein, c'est ce lavement des pieds de ses disciples. Alors, j'aimerais voir juste deux points dans ce passage. Alors, le premier, c'est que Jésus fait homme, donc Dieu fait homme, lave les pieds de ses disciples. Donc, il faut imaginer la scène. Donc, ils sont en train de manger. Donc, c'est pas au début du repas, mais au milieu du repas. Jésus se lève. Il se dévêtit, il prend une serviette, il prend une bassine, il prend de l'eau, et puis il va se mettre aux pieds de ses disciples, d'imparfaits pécheurs, et il va dénouer leurs sandales et il va leur laver les pieds. Et à l'époque, c'était les esclaves ou les femmes ou les enfants qui faisaient ça, parce que c'était pas très valorisé comme action. Donc Jésus ici se fait vraiment esclave, femme ou enfant. Il prend la place de serviteur et ça lui cause aucun souci. Alors si on considère que Jésus est un homme, ça pose pas trop de problèmes non plus. Enfin un petit peu, on le voit, mais bon. Après on se dit c'est un homme qui est serviable en fait, hein, qui est attentionné, qui est prévenant. Mais ce qui se passe en fait, c'est que dans ce passage, dans les précédents et les suivants, c'est que Jésus va se présenter avec le verbe « je suis ». Vous savez, ce nom de l'Ancien Testament donné à Dieu le Père, quand Dieu le Père rencontre Moïse et qu'il lui dit « je suis celui qui est ». Et quand Moïse lui dit « mais comment je vais te présenter ?» Dieu lui dit, tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Et donc, dans ce passage de l'évangile de Jean, on a deux fois le verbe je suis. Jésus, donc, il s'identifie à Dieu le Père de l'Ancien Testament. Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Et verset 19, afin que vous croyiez que je suis. Donc un peu l'événement ici prend un tournant tout à fait surprenant, un autre sens, puisque c'est le Dieu Tout-Puissant fait homme, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu de l'Ancien Testament qui a fait tant de miracles et tant de déploiements de puissance, qui se trouve dans notre passage au pied de disciples. Donc c'est du jamais vu, hein. Et le texte dit bien que ce lavement des pieds, cette attitude, cette action, est la marque suprême de son amour pour eux. Alors, plusieurs vont quand même se laisser faire. Est-ce qu'ils ont compris qui était Jésus et cette double nature? Mais il y en a un, en tout cas, Pierre, qui va réaliser ce qui se passe et qui va dire « Ah non, non, il est outré ». Et il dit « Non, non, tu vas pas faire ça, hein, c'est pas ta place ». Et si, Jésus dit « C'est ma place, c'est ce que je veux être pour vous ». Et alors Jésus répond « Si je ne te lave pas, il n'y aura rien de commun entre toi et moi. Tu n'auras aucune part à ce que j'apporte ». Une autre traduction. Ou une autre traduction « Tu ne peux avoir part avec moi ». Donc ici, Pierre est invité à se laisser faire, parce que Jésus veut réellement laver les pieds physiquement de son disciple et donner un exemple. Et en même temps, il y a un autre sens dans ce passage. Si Jésus ne lave pas les pieds des disciples, c'est-à-dire ne les purifie pas, alors il n'y aura pas de part de commun avec eux. Et Jésus explique par là et la purification qu'il va opérer à la croix, la purification des péchés. Alors vous me direz, c'est un peu confus, est-ce qu'on est sauvé par la foi ou on est sauvé si Jésus vient nous laver les pieds? Et alors Jésus dit, vous êtes purs, hein, déjà par la foi. Il le dira, vous avez accepté les Écritures et vous êtes purs déjà, mais il faut pourtant que je vous relave les pieds. Et c'est un symbole de demander pardon à Dieu tous les jours pour les péchés que l'on fait jour après jour. Comme à l'époque, il se lavait les pieds. Voilà, on est entièrement pardonné si on croit en Jésus, à son œuvre sur la croix. On est entièrement pur, c'est ce qu'il dit, vous êtes entièrement pur, mais voilà, on a besoin tous les jours quand même de confesser nos péchés pour être entièrement purifiés. Et on sait que nos péchés sont pardonnés instantanément, parce qu'il y a eu cette œuvre sur la croix. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Voilà, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et donc à nous de continuer à le confesser régulièrement, et il nous pardonnera. Donc voilà, dans cette scène, nous sommes devant quelque chose d'incroyable. Hein. Dieu fait homme, vient laver les pieds des péchés, il vient prendre soin physiquement des pieds, de la saleté, voilà. Et en même temps, il vient purifier ce qui reste à purifier. Alors, on peut imaginer que Jésus soit aussi à nos pieds, dans son humilité, dans son amour, parce qu'il a décidé aussi de prendre soin de nous, de notre corps, de notre âme, de nos salissures extérieures et intérieures. Et il nous dirait, si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. Alors, nous laisserions-nous faire? Il y avait un Anglais, un Allemand et un Français dans un restaurant. Et donc, ils mangeaient ensemble dans ce restaurant. Et ils voient à une table à côté quelqu'un qui ressemble à Jésus. Et ils se disent, oh tiens, on dirait bien Jésus à côté. Hein. Et puis, du coup, l'Allemand... Il dit, non, mais moi, je vais en voir le cœur net, je vais aller voir. Et puis, il se rend à la table, Il dit donc au monsieur, bonjour, vous ressemblez à Jésus, ah oui, est-ce que c'est vous? Et puis la personne, elle dit, oui, c'est moi. Ah là là, très bien. Alors l'Allemand lui dit, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Voilà, j'ai très mal à la tête. Et alors Jésus lui dit, pas de problème, et puis lui impose les mains, et le mal de tête part. Et puis l'Allemand retourne à table, voir donc son ami anglais et français, et lui dit, mais oui, c'est bien Jésus, et puis j'avais mal à la tête et il m'a guéri. Alors ils sont un petit peu scotchés. Et alors l'anglais, il dit, ah mais oui, non, mais moi j'ai mal au bras, je vais aller voir aussi. Et puis il va à la table et puis il lui dit, Jésus, voilà, c'est vous, c'est toi, tu t'auras ou pas, nous aussi. J'ai mal au bras, est-ce que tu pourrais faire quelque chose? Et Jésus pose sa main sur le bras de cet anglais et le mal disparaît. Et l'anglais revient à table et puis il dit aux autres, ah voilà, moi aussi, il m'a guéri, hein, je suis trop content, merci Seigneur. Et voilà, ils finissent le repas comme ça. Et puis Jésus a fini de manger avec ses amis. Et puis avant de quitter le restaurant, il va à la table, donc de l'allemand, de l'anglais et du français. Et puis il dit au français, mais alors toi, ça va, tu n'as pas besoin de moi. Et le français lui dit, ah, surtout, ne me touche pas, je suis en arrêt maladie. Voilà. Pour dire, et nous, que ferions-nous? Que faisons-nous? Parce que Jésus est là. Hein? Il est là avec nous, pour nous, et même humblement à nos pieds. Alors voilà, laissons le faire et puis disons-lui surtout un grand merci. Voilà. Je pense que quand on imagine cette scène de voir Jésus venir à nous et comme ça, humblement, à nos pieds, nous demander qu'est-ce que je peux faire pour toi, et qu'il le fait, ça entraîne, je pense, un grand sentiment d'humilité. Et c'est pas de la honte, je pense, mais c'est vraiment cette humilité de ce on est à nouveau à notre place, quoi, d'humain imparfait, et il y a ce décalage entre sa divinité et puis notre humanité et son amour comme ça manifesté. Donc ça conduit tout ça, je pense, à une grande humilité que l'on peut ressentir et une grande reconnaissance. Et je pense que si Jésus justement a fait ce geste concrètement, c'est pour amener ses disciples à cette humilité et à cette reconnaissance. Et ensuite, donc, il les prend à part, il leur dit, mais voilà, vous avez compris ce que je vous ai fait? Eh bien, maintenant, allez et faites de même. Et c'est un exemple que je vous donne. Et ce qui est important, c'est que il dit aussi, voilà, vous êtes heureux si vous savez que, voilà, vous pouvez, vous devez vous conduire dans cette humilité. Vous serez heureux, vous serez en paix. Hein, c'est le mot heureux que vous avez dû étudier, là, des béatitudes. Voilà, faire la volonté de Dieu, faire ce qu'il nous dit, ça nous met en paix, ça nous met dans la joie, ça nous met voilà, dans l'harmonie, en fait, de ce qu'on doit être. Alors, que se passe-t-il dans ce lavement des pieds? Alors d'abord, peut-être se dire que ce lavement les pieds, il est fait dans un contexte d'hospitalité. Hein? Et donc, par l'hospitalité, en fait, et ce lavement des pieds, eh bien, combien de besoins sont satisfaits? C'est incroyable. Et je propose cette pyramide des besoins. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Maslow qui a dit que, en fait, en tant qu'humains, nous avons 5 besoins fondamentaux. Voilà, une fois qu'on est chrétien, en dehors de la foi, hein, ou humainement, on a des besoins physiologiques, on a des besoins de sécurité, on a des besoins d'appartenance, on a besoin d'estime, et on a des besoins de réalisation. Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus va faire cette action qui répond à ses 5 besoins. Alors, je vais les reprendre rapidement. Donc, quand il va laver les pieds de ses disciples, eh bien, il va répondre à un besoin physiologique. Voilà, hein, de l'hygiène. Comme des autres besoins physiologiques, si on a besoin de boire, de manger, de dormir, de respirer. Voilà, on a un besoin d'hygiène et il va prendre soin de ce besoin-là. Et puis, en lavant les pieds, il va aussi répondre à un besoin de sécurité. Parce que quand on reçoit quelqu'un chez soi, eh bien, on lui offre de la sécurité. Et parmi la sécurité, il y a la sécurité financière, la sécurité affective, la sécurité physique. Voilà. Le troisième besoin, eh bien, c'est que quand on va laver les pieds à quelqu'un, quand on va l'accueillir, eh bien, ça va rassasier son besoin d'appartenance. La personne, elle va se sentir appartenir à une famille, à un moment, à un groupe, à un repas d'église. Voilà, on se sent valorisé, accepté dans un groupe. Et ça, c'est tellement important. Et puis, ce lavement des pieds, voilà, cet accueil, ça donne de l'estime à la personne que l'on reçoit. Parce que, voilà, tu as de l'importance pour moi. Je fais un geste pour toi. Je t'ouvre ma porte. Je te lave les pieds. Je suis là pour toi. Je prends un temps pour toi. Je te donne du temps. Donc ça, c'est aussi, c'est très important aussi de ce besoin d'estime que l'on a et que l'on peut donner. Et puis le cinquième, c'est le besoin de réalisation. En accueillant quelqu'un, voilà, on le nourrit, on prend soin de lui, et puis on parle, et puis cette personne, après, il va pouvoir repartir et se remettre au service de Dieu, des autres, réaliser les projets que Dieu a prévus d'avance. Donc, c'est intéressant de voir que, voilà, ce lavement des pieds, qui est quelque chose de concret, répond à un ensemble de besoins de la personne. Et nous pouvons faire de même, voilà, avec nos frères et sœurs dans l'Église. Parce que le passage, eh bien, c'est surtout d'abord un exemple pour prendre soin les uns les autres dans l'Église. Je lis le verset 15. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. On pense toujours aux besoins des gens de l'extérieur. Mais ici, voilà, Jésus, il dit d'abord dans l'Église. D'abord prenons soin les uns des autres dans l'Église. Une fois que Jésus a pris soin de nous, voilà, prenons soin les uns des autres dans l'Église. Donc, et dans l'Église, eh bien, on peut, voilà, s'accueillir, se soutenir, se valoriser, participer aux différents groupes et puis se motiver pour partir en mission. Suis-je le gardien de mon frère, de ma sœur? Eh bien oui, je suis voilà responsable de mes frères et sœurs dans l'Église et puis de pourvoir à leurs besoins. Voilà, pour conclure, j'aimerais prier. Oui Seigneur, merci parce que de ton vivant, ben, tu as montré à tes disciples combien tu les aimais. Combien ils avaient de la valeur à tes yeux et tu les as honorés. Tu as pris soin de leurs pieds, de leurs besoins et de les purifier aussi. Oui Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui encore tu veux prendre soin de nous, de chacun de nos besoins. Chacune de nos situations t'intéresse, tu la comprends, tu compatis et dans ta toute puissance tu restes avec nous, tu nous aides à avoir la victoire. Et sinon, Seigneur, aussi, face à un tel texte, nous voulons aussi te demander pardon pour toutes les situations où nous avons refusé ta présence à nos pieds, à notre service, parce que nous avons cherché par nous-mêmes des solutions, au lieu de regarder à toi. Oui, pardon, Seigneur. Et nous voulons aussi te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas voulu servir notre frère et notre sœur dans l'Église, alors que nous avons sûrement vu des besoins. Seigneur, oui, pardonne-nous. Et Voilà, nous voulons aussi te demander de nous aider à parler à nos frères et sœurs de nos besoins aussi, pour que nous soyons vraiment un groupe, un corps à ton service. Aide-nous à être des serviteurs prompts, rapides à donner comme à recevoir, avec un cœur rempli d'humilité et de compassion. Oui, Seigneur, fais ton œuvre encore en nous et que ce texte, vraiment, nous le gardions, vraiment présent dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.